Oh que oui, 11h06 dans ce Point de Max spécial. En ce 22 décembre, on sera ensemble aujourd'hui et demain de 11h à peu près là, à 13h. Ensuite de ça, mercredi pour le 24, ce sera des meilleurs moments de la dernière saison de l'Open Mic avec Audrey Pinchot, un moment que vous attendez toujours à 11h. Fait que mercredi, là, on vous présente les 4 meilleurs Open Mic de la saison. Et ensuite de ça, ben pour le temps des fêtes, il y a des émissions spéciales. On pourra en reparler là, au courant de l'émission aujourd'hui. Je serai là à quelques moments dans le temps des fêtes, entre autres le 25 avec de la musique de Noël rock, parce qu'il y en a des pas pires versions de tunes de Noël. Je sais que je vous casse souvent les oreilles avec All I Want for Christmas Is You, la version de My Chemical Romance. 88-971-1021, le numéro pour nous rejoindre en studio. Et quand je dis nous, je vous présenterai mon invité dans les prochaines secondes. Le temps de saluer Paolo. Salut Max, je voulais juste te dire un grand merci d'être en onde en direct aujourd'hui. J'ai adoré le podcast de Denis et Véro. Podcast animé de main de maître par Pierre Houd avec Denis et Véro pour célébrer les 20 ans du duo du retour à Boulevard 101, évidemment, à Boulevard 101 depuis quelques années. Avant ça, sur les ondes d'une autre station qu'on peut nommer là, à choix, évidemment, pour Denis et Véro et Pierre Houd qui a passé un bon moment avec eux dans les derniers mois et dans la dernière heure. Puis ce sera ça demain aussi. Là, à 10h, on vous présente un podcast avant que j'arrive à 11h. Pour le Point de Max, fait que 88-971-101, comme je disais, le numéro, textez donc, 88-971-101, on prend les présences, il y a Paolo qui est là, j'imagine qu'il y a quelques autres individus à l'écoute, fait que gênez-vous pas, il y a le Twitch aussi, on est sur Twitch, et ceux qui y sont, twitch.tv, / BLVD, /FM, ben vous voyez, vous avez déjà le scoop de qui est en studio avec moi pour commencer le show aujourd'hui. Le temps de vous dire que c'est moins 10 à Québec, moins 17 ressenti, le vent en face là, qui n'est pas nécessairement agréable, moi vous le dire. On reste dans ces eaux-là aujourd'hui, 40% de possibilité d'averse de neige. Demain mardi, c'est moins 8 aussi avec de la neige, et puis après ça, mercredi. Moins 6, alternance soleil-nuage. Jeudi pour Noël, moins 6, alternance soleil-nuage. Vendredi, moins 11 avec un gros soleil. Fait que pas de stress à y avoir au niveau d'un Noël blanc. Là. Ça prendrait tout un revirement de situation pour que ce ne soit pas le cas. Je gagerais ma paye. Fait que on est correct. On salue Philippe qui est là. On salue également Martin. Fait que merci d'être là. Et merci aussi à notre invité, un certain Claude Villeneuve qui est en studio. Salut Claude.
Salut Max, ça va bien?
Ben oui. Ça va bien, merci d'être là. T'ennuies-tu de chroniquer un peu là, ton ancienne carrière quand tu regardes ce qui se passait en politique dans les dernières semaines?
Écoute, pour reprendre l'expression là, qu'on utilise là, dans l'imprimé, là, c'est comme les derniers jours, dans les dernières semaines, j'en avais une coupe dans le bras. Là. C'est même plus dans la tête, là. C'est, elle est juste prête à écrire. Là. C'est à la barouette que l'actualité nous a donné quand même beaucoup d'événements. Puis des fois... Ben c'est ça. Moi, après 4 ans en politique municipale, je limitais quand même mes commentaires sur les autres paliers politiques. Certains diront pas assez. Mais là, écoute, il y a autant au Parti libéral, à la CAQ, tout ça. En fait, tous les partis nous ont donné des bons sujets pour discuter. Puis au municipal, ça continue à rouler. Écoute, ben, j'ai même des idées pour le fédéral. Là, et tabarouette qui s'en est passé des choses. C'est une belle année d'actualité. Quand on aime l'actualité, les nouvelles, tout ça, c'est intéressant.
Ben, on va prendre le temps. On en a du temps. Puis je veux qu'on passe sur quelques dossiers. On va y aller en commençant par le municipal, Claude Villeneuve, qui est ex-chef de l'opposition à la ville de Québec. Sur papier, t'es-tu encore chef de Québec d'abord?
Oui.
La passation n'est pas faite encore.
Oui, bien, en fait, les gens nous demandent là, qu'est-ce qu'on va faire avec le parti si on a l'intention là, de continuer de le faire vivre. Tout ça, là, on n'a pas pris de décision. Ça va peut-être que le parti va survivre comme entité administrative d'un coup qu'il y a du monde dans la gang qui voudrait faire de quoi avec ça. Mais moi, en ce qui me concerne, on est en train de faire mes livres. Là, on a remis juste avant les fêtes le rapport financier de la campagne électorale, il va y avoir des approbations. À cause du nombre de votes qu'on a eu, on aurait droit à un certain financement récurrent, là, quelques dizaines de mille par année, si jamais on voulait continuer. Mais c'est sûr que moi, je suis plus dans une logique où on a vidé nos bureaux. Là. On a pas juste à l'hôtel de ville, on avait une petite permanence là, dans un secteur industriel. Là, on a tout vidé ça, on a appelé 800 God Junk, puis ça se passe.
comment tu trouves ça que Samamad là, est officiellement fermé, lui, les livres concernant Leadership Québec, mais le parti reste là. C'est Donald Gagnon qui était candidat, qui là, devient chef par intérim. Il y aurait une course à la chefferie. T'es-tu surpris que ce parti-là, Leadership Québec, survive au-delà de Samamad avec, mon Dieu, une déception sans nom? Là. Samamad qui arrivait comme le sauveur à Québec, finalement, on a bien vu que ça n'a pas donné les résultats qui étaient escomptés de leur côté. T'es-tu surpris que Leadership Québec survive?
J'ai hâte de voir parce que, tu sais, les partis politiques au municipal, ils existent, ça peut être autour d'une raison idéologique, là, mettons de Transition Québec. Moi, je pense que Transition Québec a des bonnes chances de survivre parce que c'est comme notre Québec solidaire municipal. Ils ont un programme, ils ont une pensée, ils ont une vision, tu sais. Ou autour des personnes. Moi, j'ai essayé de recréer, tu sais, l'équipe Labo, ça n'existait plus vraiment. Ce qu'on a essayé de recréer un petit peu, on a pris la vieille structure, puis on a essayé de recréer ça autour de moi. Que succès mitigé, certains regardaient le résultat, mais bon, c'est ça la vie. Tu sais, faire vivre un parti politique municipal pendant 4 ans, tu sais, amener des membres, tenir une assemblée générale, faire une course au leadership, tout ça, ouf, tu sais, il me semble que si j'étais à la place des personnes qui veulent faire vivre le Leadership Québec, je me dirais plus que je vais me restarter quelque chose dans 3 ans, tu sais. Bon, ils feront ce qu'ils voudront, ça les concerne, mais tu sais, c'est un choix que j'aurais pu faire, par exemple, juste me mettre de côté, tu sais, quitter la direction, puis laisser quelqu'un de la gang prendre le leadership pour gérer là, les derniers rapports, ces choses-là. Mais tu sais, c'était plus que je voulais être responsable là, vis-à-vis de mes gens, là, puis pas tu sais, faire ça le plus simple possible. Là.
Comment tu trouves ça que Samamad soit pas sorti pantoute depuis l'élection du 2 novembre? On l'a pas vu, mais pas du tout. Bon, de ce que j'ai eu comme information, parce que là, ça circulait qu'il n'aurait même pas parlé à ses candidats. De ce que j'ai eu comme information, ça, c'est faux. Là. Il aurait du moins parlé à certains candidats. Ça, j'en ai la certitude. Mais reste que, face aux médias notamment, ça a été zéro pin-bar pour Samamad.
Ben, je dirais que je suis pas surpris. Je pense que M. Hamad a vraiment pas eu le résultat qu'il s'attendait. Moi, j'ai eu un résultat qui était un petit peu plus conforme à mes attentes. Pas à mes espoirs, mais à mes attentes. T'sais. Je pense que Samamad, quand il est rentré en campagne, jamais il s'attendait à faire en bas de 15%. Ce qui est la limite pour avoir un remboursement de dépenses électorales. Puis ça, j'ai hâte de voir parce que ça entraîne toute une série de possibilités dans le sens... Tu sais, il y a 3 partis qui n'ont pas fait leur 15%, Transition Québec, Québec d'abord et Leadership Québec. Je voyais, il y avait Stéphanie Martin dans le Journal de Québec qui écrivait un casse-tête financier s'annonce pour 3 formations politiques qui n'ont pas eu leur 15%. Non, non, nous, on savait là, à quoi on faisait face. Chaque scène qu'on a dépassée, on l'avait en avant de nous autres. Là, on n'a pas... c'est dépenser en tenant compte du fait qu'on aurait un score. Je ne suis pas sûr que c'est le cas pour Samamad. Je pense que dans tous ces scénarios, il ne pensait pas faire en bas de 15 %. Ça se peut que la défaite elle soit difficile à encaisser. Ça se peut qu'il sache pas trop quoi en dire. Puis bon, dans la mesure où M. Hamad n'a peut-être pas d'autres ambitions ou peut-être pas d'autres plans, bien lui, il ne sent peut-être pas besoin, disons, de protéger son image future ou quoi que ce soit. Donc, il a juste décidé qu'il tournait la page. C'est correct, mais c'est sûr, en tout cas, on aurait eu bien des questions intéressantes à y poser.
Claude Villeneuve, ton remplaçant comme chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, Stéphane Lachance, tu le trouves comment à date? Il est tranquille un peu, là. Je pense que c'est le temps de s'approprier un peu les règles et tout ça du côté de l'hôtel de ville. Comment tu trouves sa job?
Bien, c'est sûr qu'il y a un apprentissage à arriver dans cette fonction-là. Puis, je crois comprendre, là, bon, ça avait été moins mon cas, mais dans le cas de M. Lachance, là, on le dit pas souvent, mais je comprends qu'il y a une transition professionnelle dans le sens qu'il y avait des contrats, tout ça, qui rendent ça plus difficile. Le travail pour trouver le ton va être difficile. Là, je voyais à Radio X, ils sont comme déjà en train de dire « Ouais, mais là, Stéphane Lachance, on s'attendait qu'il soit plus agressif que ça. » Puis là, oh, « Attendez, il va se déjeuner, puis tout ça. » Inversement, là, je voyais dans ses entrevues de fin d'année, M. Marchand trouvait que ça collaborait bien avec le nouveau chef de l'opposition, bien mieux qu'avec l'ancienne opposition.
J'ai froncé les sourcils un peu aussi là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, ben là, Claude Villeneuve, on sait bien, il est collé sur le maire. Puis là, on voit que le maire sort en disant que ça collabore mieux avec Stéphane Lachance qu'avec Claude Villeneuve, quasiment. Là.
Ben écoute, moi, dans le dernier mandat, j'ai eu bien plus souvent la critique. J'avais les deux. J'avais la critique que j'étais trop chialeux, que j'étais de mauvaise humeur. Il y avait des gens, des fois, j'allais dans des événements qui ne voulaient pas me serrer la main parce qu'ils trouvaient que j'étais trop agressif envers Bruno Marchand. Mais tu sais, quand j'étais plus, mettons, dans Haute-Saint-Charles ou à Charlebourg, Beauport, quand j'ai à Radio X, ben là, Claude il était trop fin avec le maire. Puis là, Claude, il mangeait dans le même Marchand. Puis tout ça. Je pense que c'est un peu ça le propre de l'opposition. C'est que, tu sais, selon que les gens aiment le maire ou pas, ben ils vont trouver que tu es trop agressif ou pas. Tu sais, ça va être un défi pour Stéphane durant tout son mandat, ça, c'est certain. Tu sais, c'est sûr que moi, je pense que son. son lunch à Stéphane, c'est plus dans ceux qui n'aiment pas Marchand. Là. C'est plus oui. C'est peut-être plus à eux qui doit parler. Donc, il va avoir besoin de s'ajuster. C'est sûr que ça va y prendre du temps. Mais c'est sûr qu'à jouer Bruno après ça, qui dit oh, ça collabore mieux qu'avec que les oppositions d'avant. Minute, là. Tu sais, je veux dire, on a payé le prix pour le tramway. Je pense qu'il y a du spin politique là-dedans, là, de part et d'autre, c'est certain.
Comment tu trouves le début de mandat de Bruno Marchand généralement?
Ben, tu sais, il l'a facile, mais tu sais, c'est correct parce qu'il y a le momentum. Là. Je me rappelle en fait une phrase que je passe souvent quand je le regarde aller. Puis je compare pas les deux individus idéologiquement, mais un petit peu leur positionnement. Là, c'est que George W. Bush avait dit ça en 2004 après sa réélection. Il dit « J'ai beaucoup de capital politique accumulé et j'ai bien l'intention de le dépenser. » Je pense que Bruno Marchand, il a fait un gros score. En 2021, il avait été élu un petit peu sa fesse, comme on dit, très serré. Il a amené son agenda tranquillement, là, les vélos, la ville en santé, toutes ces affaires-là, parce que c'est pas des choses dont il avait beaucoup parlé. Là, écoute, il s'est fait réélire, les gens savent c'est qui Bruno Marchand, ils savent c'est quoi ses priorités, ils ont donné un gros mandat, il va l'utiliser là, autant qu'il peut. Attendez-vous à ça, là. Si vous trouviez qu'il y a des pistes cyclables, ça faisait beaucoup à Québec récemment, il va s'en faire encore plus. Puis ça se voit notamment dans la façon, le positionnement qu'il prend sur le dossier de l'immigration. Face au gouvernement du Québec, là, il y a l'intention. T'sais, en 2021, il y avait comme un spin où on disait « Ah, maintenant, l'opposition officielle face à la CAQ, c'est les nouveaux maires. » Bruno Marchand voulait pas aller « Ah, non, c'est pas vrai, je suis pas l'opposition par rapport à mon banquier, tout ça. » Là, il se gêne plus, là, Bruno Marchand. Puis il sent que la CAQ est affaiblie. Puis je serais pas étonné qu'il utilise un peu des dossiers comme ceux-là pour se positionner éventuellement pour un autre palier. Là. Il y a beaucoup de gens, devant son discours de victoire, avaient l'impression que c'est plus un discours de premier ministre à devenir que de...
Ah ouais, tu penses que Bruno Marchand a peut-être des aspirations provinciales?
Ben, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y a des plans qu'il a planifié, qu'il organise, mais je... T'sais, avoir une opportunité, je suis pas sûr qu'il la déclinerait. Là, j'ai l'impression qu'il commence à... T'es encore jeune, Bruno Marchand. Là, je l'ai entendu dans une de ses entrevues de fin d'année. Il dit il parle de l'inauguration du tramway. Puis il dit « Je serais peut-être plus maire à ce moment-là, mais... » on dirait qu'il commence déjà à se demander c'est
quoi. C'est quoi, un libéral, ça, Marchand?
Son entourage est très péquiste. Il y a beaucoup de gens qui viennent du Parti québécois. Il a souvent pris des... positionnement, notamment sur la langue puis sur la charte de laïcité, assez nationaliste. Mais moi, je le sais pas sur la question nationale où est-ce qu'il loge. Je me fais souvent poser la question. J'avais souvent des chums du PQ qui m'appelaient et disaient « Marchand, c'est indépendantiste, ça! » C'est pas clair. C'est vraiment quelque chose sur lequel il a toujours été très, très prudent. On me chuchote qu'il serait pas indépendantiste, mais là, c'est vraiment de la spéculation, je sais pas.
Fait que c'est peut-être le prochain chef caquiste.
Ça, écoute.
Hey, mais on pourrait voir.
Politics makes strange bedfellows, comme on dit.
On pourrait voir Claude Villeneuve et Bruno Marchand se présenter ensemble pour le PQ dans quelques années.
Ouf, ouais, OK. Là, on est vraiment rendu dans la politique fiction. Mais je sais pas, là, ça a l'air qu'il y a une position ouverte au Parti libéral.
Ouais, non, c'est ça. Puis d'ailleurs, on va faire le saut à l'instant au provincial. Claude Villeneuve, ex-chef de l'opposition à la Ville de Québec, qui a le goût de chroniquer ces temps-ci, puis qui a le goût de chroniquer pas mal. Des dernières semaines, fait que je me suis dit pourquoi pas l'inviter à Boulevard avant de partir pour les fêtes.
Mais c'est parce que ça flyait tellement, c'est pas une pensée. C'est comme ce pauvre Pablo. D'abord, c'est quand même bizarre. Mardi, on a su qu'il verrait son caucus. Mercredi matin, on a confirmation qu'il va leur annoncer qu'il démissionne. Il annonce jeudi. T'sais, un effeuillage de démission, c'est quand même un peu. Tu fais du renouvelle, tu contrôles pas beaucoup ton message, je trouve. Bon. Mais c'est au point où.
Là, finalement, il a comme été chanceux parce que Christian Dubé a annoncé sa démission jeudi, que ça a comme tué la nouvelle de Pablo qui démissionne.
Mais il s'est comme fait piquer sa journée, finalement. C'est comme... C'était bizarre. Là. Puis à moi, Christian Dubé, on savait tous que M. Dubé n'avait pas l'air de bonne humeur à cause par rapport à l'OI2. On le savait, mais moi, j'étais au Grand Marché en train d'acheter mes pâtes à viande là, du pied de cochon là, pour Noël. Là, quand j'ai eu la notification sur mon téléphone, là, j'avais pas ça là, sur ma carte de bingo pour ce jeudi-là.
Et on avait François Legault en entrevue mercredi, puis j'ai posé la question, est-ce que la majorité des ministres caquistes vont se représenter?
La majorité vont se représenter.
Malgré les sondages?
Oui. Il y a Christian Dubé qui a déjà annoncé qu'il ne se représentait pas, mais les autres ministres... D'ailleurs, c'était une des conditions quand j'ai fait mon remaniement. Je leur ai tous demandé est-ce que vous représentez. Puis ceux qui m'ont dit non, ils sont plus au Conseil des ministres. Puis ceux qui m'ont dit oui sont au Conseil des ministres.
On dirait que j'ai quand même encore de la misère à croire ça, que la majorité des ministres en ce moment, avec le bateau qui coule complètement, vont vouloir se relancer.
Mais tu sais, en politique, toutes les promesses de. Tu sais, les. les promesses que c'est le plus facile de ne pas tenir, c'est tout ce qui est « je serai candidat » ou « je ne serai pas candidat ». Ça, là, il y a toujours une évolution. Je l'ai vécu dans Québec d'abord, d'ailleurs, aussi.
Oui,
là,
oui.
Il y a toujours une évolution du contexte, un élément nouveau, un tel affaire que j'avais pas passé, une situation familiale, une évolution qui fait en sorte que tu peux finir par décider de pas y aller. Puis, tu sais, la réponse, même François Legault, tant que tu n'as pas décidé de partir, la bonne réponse, c'est « je vais être là ».
Ben oui, c'est
sûr. Tu peux pas évoquer que tu vas être peut-être pas là, parce que là, tu sais, ça part. Donc, il y a cette hésitation-là. Tu sais, c'est sûr qu'Éric Girard, il y en a plusieurs, j'ai de la misère à, est-ce qu'ils sont prêts à aller dans une défaite électorale? Est-ce qu'ils seraient prêts à se voir dans l'opposition? Je vois Geneviève Guilbeault dans l'opposition. Moi, je suis capable de. Il y en a quelques-uns, je suis capable de voir qu'ils feraient des députés d'opposition assez agressifs, assez coriaces.
Mais encore là, il faut qu'ils soient élus.
Et voilà.
Puis là, en ce moment, selon les projections encore, c'est pas impossible. Puis là, bon, les déboires des libéraux vont peut-être faire qu'il y a une couple de caquistes qui vont réussir à passer, mais reste que depuis quelques semaines, là, c'est une vraie possibilité qu'est zéro.
Complète, là.
Ben oui. Fait que tu sais, oui, tu peux dire, OK, oui, je serais game d'être dans l'opposition, mais encore, faut-il que tu sois élu? Quelle catastrophe ce serait qu'il y ait zéro élu caquiste après un raz-de-marée? On n'a jamais vu ça de l'histoire.
Ben, tu sais, on l'oublie souvent, mais c'était historique ce que François Legault avait fait en 2018, là, prendre le pouvoir avec un nouveau parti, la première fois depuis 66, qu'un autre parti que le Parti libéral ou le Parti québécois gagnait. Là, c'était l'Union nationale en 66. Là. La CAQ, ça faisait au-delà de 50 ans qu'il n'y avait pas eu un autre parti que le PQ ou le PLQ qui avait gagné. Là, après ça, cette majorité-là pléthorique. On le disait, en 2022, on se disait que ce serait un caucus qui serait difficile à tenir ensemble, par exemple. En 90, là, ça commence à faire beaucoup de gens qui sont sur les banquettes arrière. Mais là, en tout cas, c'est fou de s'imaginer que ça pourrait passer de l'un à l'autre. Mais ça aura été, tu sais, l'histoire va nous rappeler que 2022-26, ça va avoir été un mandat difficile pour la CAQ, un peu comme ça l'a été pour René Lévesque 81-85, d'ailleurs.
Et tu parles de René Lévesque, François Legault, qui en a sorti une bonne dans notre entrevue la semaine passée. Puis j'ai fait jouer cet extrait-là plusieurs fois. Je l'ai lancé aussi sur les réseaux sociaux parce que je trouve ça cosmique comme réponse. On parlait justement de son groupe en ce moment, du côté de la coalition Avenir Québec. Puis voici ce qu'il nous a sorti.
Moi, je dirais que depuis le PQ de 76, il n'y a jamais eu un groupe avec autant de monde fort.
Vous allez
ce qu'on
loin,
a
là.
Actuellement.
Ils n'ont pas brûlé? Ils n'ont pas été brûlés par le fait que vous les avez reculés dans certains dossiers? Ou...
Bien, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il y en a plein qui pourraient prendre ma place, mais honnêtement, moi, je pense que je n'ai pas fini le travail. Et un des défis qu'on a à la CAQ, vous savez, depuis 50 ans, pendant 50 ans, on a eu le PQ qui défendait le français, puis le Parti libéral qui supposément défendait l'économie. Moi, j'ai une équipe qui a les deux. J'ai des gens très nationalistes, des anciens du PQ, puis j'ai des gens très économiques et très gestionnaires. J'ai la chance d'avoir les deux. J'ai une équipe extraordinaire.
Le groupe le plus fort depuis le PQ de 76.
Bien, tu sais, en nombre, à 90 députés, t'as assez de monde qui ont un pedigree, mettons, pour être capable de faire deux conseils des ministres. Ça, ouais, mais tu sais, en termes de diplôme universitaire, en termes de... Tu sais, je veux dire, t'avais Jacques Parizeau puis Claude Morin qui avait quasiment bâti l'État québécois là, avec, en 76. Là, t'avais du monde là, qui avait été des compagnons de René Lévesque.
Ah, de dire ça en ce moment avec des ministres qui quittent puis que t'es rendu avec 9 députés indépendants.
Ben, c'est parce, ça,
tu sais. C'est pas...
C'est correct qu'il parle en biais de sa gang. Là, ça serait bel, bout qu'il fasse le contraire, mais... C'est sûr qu'il y a enjolive un peu. Puis, tu sais, dire, résumer ça, les libéraux, c'était l'économie, le PQ, c'était le français. Ben, dire qu'avec Bernard Landry, puis, tu sais, avec le PQ dans le temps, là, ça y allait autour, son économie aussi. Là, quand on a amené Nasdaq à Montréal avec Lucien Bouchard, puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui le rappellent, qui le savent, mais en 2001, après le 11 septembre, les attentats du 11 septembre, toutes les économies nord-américaines ont reculé à ce moment-là, sauf le Québec. Puis, qui était ministre des Finances à ce moment-là? C'est Pauline Marois, ministre des Finances et de l'économie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui prête ces réalisations-là. Mais tu sais, ça a été des gros gouvernements économiques. Puis ça a été, tu sais, le PLQ, ça a été avec Robert Bourassa, c'était du gouvernement nationaliste aussi. Je trouve que je trouve qu'il fait des spins simplistes, M. Legault. Puis tu sais, c'est ça, d'aller dire j'ai le groupe le plus fort depuis René Lévesque, c'est parce que là, tu es en fin de mandat. Si tu avais été capable de réformer sur le sens, ça se serait su. Là. Tu sais, je veux dire, toutes les initiatives qu'il lance depuis quelques mois, c'est toutes des affaires qu'un gouvernement nouvellement élu devrait lancer.
Est-ce que tu penses vraiment que François Legault va se lancer aux prochaines élections? Parce que, tu sais, au début, il disait que oui, mais personne ne le croyait.
Ouais.
Là, il est tellement convaincant, puis il a tellement l'air sûr qu'il retourne qu'on le croit tout. Là.
Écoute, il y a quelque chose qu'il a dit à un moment donné cet automne, qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il a toujours exclu de ne pas être candidat. Puis à un moment donné, il a dit « Oui, on a eu la discussion, on en a parlé en masse, mon équipe puis moi, puis on a décidé que je restais. » Puis c'était comme « Ah, OK. » C'est une première admission que la réflexion s'était faite. C'est une première admission qu'il y avait une discussion là-dessus. Je répète ce que je disais tantôt. Tant que tu n'as pas décidé de partir, la bonne réponse, c'est que tu es absolument convaincu de rester.
C'est sûr.
C'est... Je l'ai appris à mes dépens. Moi, comme chef de Québec d'abord, à un moment donné, j'ai dit « ça se pourrait que je ne sois pas candidat à mairie ». Je regrette d'avoir fait ça à l'époque parce que j'ai entretenu un flou, j'ai créé un doute, que même durant la campagne, il y avait encore du monde qui me disait « ah, vous n'aviez pas dit que vous ne seriez pas là, vous ». Tu peux pas. Tant que tu n'as pas 100% décidé que tu t'en vas, t'es là. Je pense que François Legault, à ce stade-ci, son intention, c'est d'être candidat. Mais il pourrait changer d'idée, puis plus que la campagne, là... Ça va aller vite, là, Maxime. Là,
c'est dans 10 mois. Là.
En janvier, ils reviennent. En février, première semaine de février, ils reviennent à l'Assemblée nationale. Là, ils vont rouler des travaux parlementaires à la pied de la planche jusqu'au mois de juin. Puis quand le Parlement ferme en juin, ils sont en campagne.
Oui.
C'est comme. Fait que là, à un moment donné, M. Legault, il va falloir qu'il approche des candidats. Il va falloir qu'il prenne des photos pour ses pancartes. Il va falloir qu'il réfléchisse à une thématique de campagne. Puis il n'aime pas ça, les campagnes électorales, François Legault. C'est pas le moment où ce qui est bon. 2022, il est arrivé avec son gros momentum post-COVID, mais il y a eu une campagne super pénible, il a eu de l'air de mauvaise humeur tout le long. Je suis pas sûr que plus qu'on va se rapprocher, plus qu'il va être capable de se voir là-dedans. Ça pourrait être bien bizarre comment ça va se dérouler. Puis c'est un politicien qui est un peu atypique, qui pourrait prendre ses décisions sur des critères différents de ce qu'on est habitué de voir.
On va parler du Parti québécois qui est très fort encore dans les sondages dans les prochaines minutes, mais avant, je veux qu'on revienne au Parti libéral du Québec, la crise en ce moment. Puis là, on en est rendu au okay, c'est beau. Là. On peut semi-tourner la page sur Pablo. Je dis semi parce que là, il y a des résultats d'enquête qui vont sortir de ça. Là, le ménage a été fait concernant Pablo Rodriguez, la personne lui-même, mais reste qu'il reste du monde autour de lui. Puis d'ailleurs, dans Le Devoir, ce matin, on nous parlait de Sona Lakoyane Olivier.
Oui, qui est suspendu.
Hein, exactement, qui, déjà par le passé, là, c'est... en 2022, elle avait été rappelée à l'ordre par le Parti libéral lors de la course à l'investiture dans Chaumdé parce qu'il avait fait des affaires qui étaient croches. Fait que, tu sais, là, Pablo est parti, c'est beau.
Ça vous rappelle les textos un peu, hein? C'est comme ça que j'ai gagné mon investiture avec les
brownies. Mais elle a dit que c'était pas elle, puis elle voulait l'amener.
En
tout cas, en effet. Mais c'est ça, tu sais, là, Pablo est parti, c'est beau. Il reste du monde potentiellement croche. Il reste des résultats d'enquête qui vont sortir. Le parti n'est pas sorti du bois, peu importe ce qui arrive. Là, il va-t-il avoir une course? Moi, je sens que ça s'enligne vers un couronnement de M. Milliard. On devrait le savoir dans les prochaines heures. Ça va rester, là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Ça va toujours planer au-dessus du parti jusqu'aux élections.
Oui, puis c'est que il y avait toujours un discours autour des affaires de corruption, puis d'intégrité, puis d'éthique. C'est-à-dire, cette période-là est derrière nous, là, c'est l'époque Charest, Charbonneau, tout ça, puis ça, ça définit pas le Parti libéral. Mais là, ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, ça vient comme renforcer la marque. Hein, puis là, j'entendais des chroniqueurs qui font même rappeler qu'en 1976, quand M. Bourassa a été battu, il y avait des histoires de corruption, tout ça. Puis là, ça vient comme cristalliser dans la marque libérale là, que la corruption, ça fait partie de leur génétique, alors que dans ce qui a sorti beaucoup dans les dernières semaines, c'était beaucoup du monde, tu sais, des libéraux fédéraux qui venaient aider Pablo Rodriguez. Ça, c'est, on n'a pas tellement l'impression que c'était des gens issus du sérail libéral provincial qui avaient fait ça, mais ça fait désordre, puis c'est la manière qu'ils ont de gérer ça, le sentiment qui... Tu sais, des fois, je me demande qu'est-ce que Pablo Rodriguez aurait pu faire de plus, à part pas être hésitant puis zézeter en parlant. Mais, tu sais, ils ont quand même déclenché des enquêtes, ils regardent tout ça.
Puis moi, je le crois en passant, puis je l'ai dit plusieurs fois, mais je le crois que Pablo Rodriguez n'était pas au courant de bien des affaires là-dedans, là, puis que ça se passait. Est-ce qu'il aurait dû être au courant, puis est-ce que c'est son rôle de chef de prendre le blâme? Puis oui. Mais moi, je le crois qu'il y a bien des affaires qu'il ne savait pas.
C'est parce que la situation... Comment tu te retrouves dans cette situation-là? C'est que de deux choses l'une. Si tu es le chef et qu'il y a des affaires croches qui se passent dans ta campagne, sous ta direction, de deux choses l'une. Soit tu es un croche, puis tu as fait ça en toute connaissance de cause. Soit ça s'est passé dans ton dos, puis connaissance de rien, fait que t'es un incompétent.
Exact.
Tu sais, de quoi tu préfères avoir l'air d'un croche ou de Mr. Magoo, là, tu sais, genre qui voit rien aller, tu sais. C'est comme, c'est, pour un chef, les deux images sont assez dévastatrices. C'est la deuxième qui a collé sur Pablo, je pense. Tu sais, qui a pas eu l'air autant malhonnête qu'il a eu l'air niaiseux, tu sais, c'est un peu... Puis c'est cruel parce que moi, je trouve que Marois Risky, je sais pas c'est quoi ses intentions, Marois Risky, je serais bien curieux de prendre un café avec. Mais tu sais, d'arriver puis de dire « Hey, by the way, j'ai congédié Geneviève Hinz, puis je te dis pas pourquoi, puis tu voulais qu'il fasse, Pablo. » Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il me semble que, en tout cas, je connais pas tous les détails, mais comme chef parlementaire, sa job, ça aurait été de rencontrer son boss, hein, tu sais, le chef du parti qui l'a nommé là, dire « Écoute, j'ai été au courant de tels éléments. Comptes-tu prendre action? Si tu comptes pas prendre action, moi, je vais quitter. » Elle l'a placé, Rodriguez, dans une situation où il... Tu sais, comme dans sa posture, dans son attitude, il aurait pu être différent, mais comme geste objectif, là, comme geste positif à jouer de plus qu'il aurait pu faire, j'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus parce qu'il n'y avait juste pas l'information.
Claude Villeneuve, parlons du Parti québécois maintenant qui, depuis un bon moment déjà, semble se diriger vers un gouvernement majoritaire. On a comme une petite baisse dans le dernier sondage qu'on lit peut-être à la controverse des artistes là, de Paul Saint-Pierre Plamondon qui se serait attaqué au monde culturel. Moi, ça n'a jamais été ma lecture de ce qu'il a dit, mais reste que la politique, c'est toujours une histoire d'apparence. Puis quand c'est ça qui ressort, ben c'est ça que les gens comprennent. Puis ça a peut-être paru dans les sondages. Sens-tu que c'est le début d'une baisse qui va se poursuivre pour le PQ ou tu penses qu'on va réussir à se maintenir?
Ben écoute, ça va faire deux ans que le PQ est en tête des sondages de Pep Parcelle dans Jean Talon. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons. Tu sais, entre 35 et 39 il s'est promené autour de ça. Puis là, tu sais, c'est arrivé au printemps qu'il avait baissé un peu. Puis là, c'est-tu parce qu'il parle trop de référendum, tout ça. C'est normal que ça bouge. Probablement que, oui, il y a un lien entre cette controverse-là qui a pris beaucoup de place. Là. Moi, c'est drôle parce que je commençais à trouver. Voyons, il semble que le PQ, il voudrait que Pablo reste chef du Parti libéral. Tu sais, puis là, le PQ critiquait Pablo quand même pas mal. Là, quand j'ai vu Paul Saint-Pierre Plamondon se retrouver dans cette controverse-là, j'étais comme « Hey, good, OK, vous avez trouvé une façon d'enlever l'attention sur Pablo Rodriguez. Bien joué, les mecs! » Tu sais, c'est un peu... c'est parce que là, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était vraiment une crise non provoquée. Là, c'est comme c'est vraiment venu de lui. Puis il a fallu qu'il s'en défende. Donc, c'est peut-être pas le genre de nouvelle dans lequel tu veux te retrouver. Ça craint que tes militants, je voyais il y avait beaucoup de péquistes là, qui défendaient là, Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir fait ça. En fait, moi, je trouve que le plus gros problème, c'est que ça a duré trop longtemps, cette histoire-là, ça, comme on trouvait en 4-5 jours, là, jusqu'à tout le monde en parle dimanche, là, pour finir par s'excuser. Mais tu sais, genre, je regrette pas de l'avoir dit, je regrette comment je l'ai dit, tout ça. Ouais.
Il aurait pu faire ça le lendemain, puis on aurait moins parlé.
Mais c'est que ça fait plusieurs cycles de nouvelles qui sont pas positives, puis ça l'a comme placé dans l'actualité pour quelque chose qui était pas gagnant pour lui. Ben, tu sais, à la fin, je veux dire, je suis pas sûr que monsieur, madame, tout le monde à la maison, ils sont bien choqués là, du sort des artistes ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est des clientèles que ça craint. T'sais. Puis c'est sûr que les réseaux culturels, tout ça, ben, tu sais, eux autres, ils suivent gros la politique, l'actualité, le PQ aimerait ça, tendance peut-être à y prendre pour acquis, mais c'est rendu du monde qui vote pas mal Québec solidaire. Là. C'est le reste du monde à QS, c'est eux autres. Donc, je sais pas, j'étais un petit peu surpris par tout ça. J'étais en train de. Je faisais un pulled pork chez nous cette journée-là, puis j'étais comme en train de. Je regardais ça se passer tranquillement, pas vite. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, moi je lui accorde beaucoup de crédit pour tout ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu au PQ. Il a sauvé le parti littéralement. Puis à toutes les fois où il a dit que quelque chose n'était pas possible, c'est arrivé.
Ouais.
Il voulait devenir chef, ben là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a personne qui te connaît, puis là t'as un nom compliqué, puis tout ça, puis ben, il réussit à gagner. Ben là, le PQ c'est mort, tu pourras rien faire avec ça, ben il réussit à faire sauver le parti. Faire élire à Montréal, voyons, le PQ à Montréal, c'est du Québec solidaire au complet, tu seras pas capable, il arrive si toi-même
te déplie. Merci, c'est ça, à cette personne-là.
Après ça, moi, je vais siéger sans prêter serment au roi, c'est comme la commande, là. C'est le premier député de l'histoire qui a siégé à l'Assemblée nationale sans jamais avoir prêté serment au roi. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quand même pas rien, là, à Rennes, en fait, par le passé, parce que Joël Arsenault et Pascal Bérubé avaient déjà prêté serment dans un autre mandat. Donc, tu sais, tout ce qu'il fait lui réussit. Puis là, je trouve qu'il y a peut-être atteint un moment où il doute plus. T'sais, que lui, comme politicien, il se dit quand on veut quelque chose très fort, ça finit par
puis ça, on peut dire ce qu'on veut contre le Parti québécois, contre Paul Saint-Pierre, Plamondon. On reproche souvent aux politiciens là, de ne pas faire ce qu'ils veulent vraiment faire ou de ne pas dire ce qu'ils veulent faire. Paul Saint-Pierre, Plamondon, son bon sondage, pas bon sondage, opinion publique, pas opinion publique, ben lui, il avance avec ses idées. Fait que ça, on peut le reprocher, là. On peut lui dire qu'il devrait pas peut-être y aller avec des idées qui sont pas populaires, ne serait-ce que le référendum. Mais lui, il continue de le dire. On va faire un référendum, puis il avance avec le livre bleu, puis il avance avec tout ça. C'est un couteau à double tranchant. Mais moi, j'ai un respect pour ça, un politicien qui fait ce qu'il dit.
C'est le chef du Parti québécois le plus clair sur son plan de match depuis Parizeau. Ça, c'est indéniable. C'est sûr que c'est facilité par le fait, tu sais, il y a un petit caucus. Il était 3 au début, 4, 5, 6, là, où est-ce que ça va arrêter? Je sais pas si t'as entendu la joke d'André Fortin, qui est le chef parlementaire du Parti libéral, qui a dit là, on se rendait compte que le Parti québécois était sur le bord, alors, plus de députés que de députés indépendants, là, puis on pouvait pas laisser faire ça. Mais tu sais, le parti grossit. C'est sûr que quand tu as un caucus de 20, 25, 40 députés, c'est plus tough là, tenir la ligne, parce que là, il y a du monde qui sont inquiets, ils reviennent de passer leur fin de semaine à leur circonscription, puis là, oh, mon Dieu, le monde n'aime pas ça, ce que le chef a dit, puis tatatata. Tu sais, il y a comme le contexte parfait pour être capable d'aller l'avant, puis il le fait. Ses idées sont claires, puis on...
Moi, j'ai longtemps douté, puis à toutes les fois qu'on recevait un péquiste en entrevue, on le demandait, vous tenez le cap sur un référendum dans un premier mandat, malgré les sondages, oui, tout le temps. Puis moi, malgré ces oui-là, je me disais, ils le feront pas, ils vont finir par reculer, parce que dans les sondages, ça va leur faire trop mal, ils vont finir... Mais là, ils avancent tellement qu'ils reculeront pas, là. Si le PQ est élu, il va en avoir un référendum.
Ben, tu sais... Il y a toute une génération, ben en fait, j'en fais partie, t'en fais partie. C'est comme moi j'avais 13 ans quand il y a eu le référendum de 95. Il y a plein de monde qui n'ont pas été socialisés dans le contexte référendaire, tu sais. Fait que je pense pas que ça fasse peur au monde comme ça faisait peur avant, tu sais. C'est pas il y a comme une grosse partie de l'électorat qui n'a pas le trauma du référendum. Par contre, moi qui suis indépendantiste puis qui est très enthousiaste à l'idée qu'il y ait un référendum, puis je pense que je vais voter. Ben, en fait, je sais que je vais voter oui si jamais ça devait se produire. Un référendum sur les réseaux sociaux, ça risque d'être intense sur un méchant temps. Ça risque d'être quelque chose. C'est genre comment tout est clivant de nos jours, comment tout est. Puis
c'est vrai qu'on l'avait. On l'avait pas dans le temps.
C'était pas la même chose. Puis moi, je me rappelle comment. Hey, moi, j'ai une gang de chums. À qui, là, des chums secondaires qu'on avait arrêté de se parler après le conflit étudiant en 2012. Parce qu'on était vrai carré rouge, carré vert, tout ça, on était vraiment pas du même bord. Puis on a eu un de nos amis de la gang qui est mort en 2019. Puis là, on s'est comme tout retrouvé, puis c'est la première fois qu'on s'est parlé depuis ce temps-là, puis on se disait, on a-tu été cave hein, de pas se parler pendant toutes ces années-là, puis le temps qu'on a perdu avec Charles, puis tout ça. Puis on se dit, on se fera plus jamais à voir. L'année d'après, pandémie!
Ah ouais, fait que là,
écoute,
ben
le split s'est refait exactement de la même manière. Alors, pourquoi je dis tout ça? Un référendum sur les réseaux sociaux, tu sais, là où. Ouais. Les réseaux sociaux, ce lieu où tu peux pas juste te contenter de pas parler à ton chum avec qui t'es en désaccord, ou ce que tu vois, ce qu'il publie à tous les jours, puis ce qu'il dit, ça va être une expérience particulière, c'est certain. Mais je pense pas que... Là, je suis comme l'indépendantiste qui fait la mise en garde, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas ce trauma-là, puis qui n'ont pas cette crainte-là, puis l'idée du référendum fait plus peur comme elle a déjà fait. Puis je pense que à ce stade-ci, pour Paul Saint-Pierre-Blamondon, ce serait plus coûteux d'avoir l'air de marcher sur la peinture puis de se défaire du référendum que de persister dans cette ligne-là à 10 mois des élections.
Puis est-ce que tu crois que le référendum peut être gagnant? Tu sais, ça, c'est la grande question. Moi aussi, je suis un indépendantiste qui n'a jamais vécu de campagne référendaire, loin de là. Je suis né en 2001. Là, fait que 95, je n'étais même pas proche d'être là.
C'est ça, ouais.
Mes parents ne s'étaient même pas rencontrés encore. Puis tu vois les sondages, tu te dis, ouais, on a beau le faire. Mais en même temps, il y a plein de monde qui n'a jamais entendu parler de souveraineté du Québec. Puis ce monde-là peut être convaincu en parlant. Là, on est tellement loin. Y crois-tu?
Ben oui, c'est compliqué pour différentes raisons. D'abord, les lignes de fracture sont plus les mêmes. T'sais, je voyais les jeunes artistes là, qui sont pour la souveraineté, tout le monde en parle. Eux autres, le cas du oui, tel que le PQ, Paul Saint-Pierre-Blamondon qu'on soit, ils vont savoir avoir envie d'évoluer là-dedans. J'espère que oui. Moi, je pense qu'il faut être capable de rassembler. C'est sûr que c'est ça. Il y a une polarisation. Le Québec s'est diversifié. Puis c'est sûr que quand tu regardes historiquement l'appui à la souveraineté, les faux, ça a passé 50%. C'est ouf. L'époque du l'échec de la cause du Lac-Mé, chouf, scandale, comment dit. Ouais. C'est que la droite n'est pas montée souvent au-dessus de 50%. Fait que là, c'est le pari qu'une mobilisation puis le fait qu'on en parle beaucoup pourrait permettre de monter au-dessus de 50%. Je pense que ça se peut. Par contre, est-ce que je pense qu'un référendum gagné à 52% donnerait l'indépendance? Je suis pas sûr. Il faudrait aller de l'avant. Moi, on est un démocrate, puis les indépendantistes sont là. Puis même, en fait, l'ensemble du Québec s'entend que le résultat référendaire devrait être reconnu. Mais, tu sais, à 52 % là, le rapport de force là, pour négocier avec le Canada, puis là, le fédéral va essayer d'inverser ça, tout ça. Il faudrait structurellement que l'appui soit plus fort que ça si on veut avoir un mandat fort, parce que, imagine, tu fais le référendum passe à 52 % tu commences à avoir des négociations, ça shake un peu, plus tu vas avoir des sondages qui mettent l'option en bas de 40. Puis là, ça va se mettre à dire, ben là, il faut refaire le référendum. C'est plus ça que je me demande. Moi, je pense passer 50 %, ça se peut. Mais est-ce que, de façon effective, un référendum légèrement au-dessus de 50 % donnerait un Québec pays? J'ai des craintes. Il va falloir être ferrant, tabarnouche, parce que c'est pas un, dans le contexte mondial, en plus, là, c'est pas facile.
Québec solidaire, on a nommé le parti. Est-ce que ça sent la fin pour QS ou bien si ce parti-là va toujours avoir sa petite niche, puis là, on dirait que on a Gabriel Nadeau-Dubois qui voulait peut-être se rentrer ça. Les militants voulaient rien savoir, puis ça va rester un parti de gauche qui va exister, mais qui n'existera pas fort.
Bien, c'est un parti de niche. C'est en train de devenir une espèce de NPD provincial. Puis c'est ce que Québec solidaire disait ne pas vouloir devenir. Un peu comme le Bloc québécois qui ne voulait pas devenir une police d'assurance du Québec à l'intérieur du Canada. Là, une façon de. C'est le Québec solidaire. À leur début, ils faisaient beaucoup de comparaisons avec l'émergence du Parti québécois en 76. En 70, première élection du PQ, ils font élire 6-7 députés. 73, même chose. 76, pauvre gouvernement majoritaire. L'éclosion là, pour Québec solidaire, elle se fait attendre. Là, c'est le bout où, tout d'un coup, ça devient un parti qui rassemble largement. Puis c'est sûr que c'est plus la même époque. Les gens sont plus polarisés. Il y a plus de. Est-ce qu'un parti comme Québec solidaire serait capable d'aller chercher 35-40 % du vote? Moi, je ne pense pas voir ça de mon vivant ou pas dans la forme actuelle de Québec solidaire. Ils vont avoir des questions à se poser. C'est, soit ils assument qu'ils sont ça, un parti de niche, là, un peu comme je dirais un NPD provincial, ou ça va prendre un parti qui essaie de rassembler plus large. Puis là, ben, Catherine Dorion, tout ça, je les entends. C'est plus avec une approche révolutionnaire, on va rassembler plus que ça. Puis là, ils parlent tout le temps, ils trippent sur des gars comme Zoran Mamdani à New York, puis tout ça, puis il faut s'inspirer de lui. Mais tu sais, c'est que ça marche, là, des Mamdani, tout ça, dans des contextes là, urbains, très, avec une clientèle là, très, très progressiste, mobilisée. Quand tu veux faire élire tes candidats dans 125 circonscriptions en grandeur du Québec, avec la ruralité qu'on a, c'est pas évident de trouver c'est quoi la place de Québec solidaire dans tout ça.
Claude Villeneuve, le temps file, je te donne deux options. Soit on fait quelques petites minutes politique fédérale là, soit on fait une pause puis on prend un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que tu préfères?
On peut prendre une pause.
OK, prenons une pause. Merci beaucoup, Claude Villeneuve, en passant. Super cool de passer du temps. Plutôt, ça te sort de t'emballer des cadeaux de Noël, puis je semblais croire que c'est pas ton activité préférée d'emballer des cadeaux de Noël. tout le monde est content. On est avec Claude Villeneuve, ex-chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec. Un homme qui s'ennuyait de chroniquer et j'ai l'impression que ça se voit. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, on revient puis on jase de l'année 2025 en politique fédérale et ce qui s'en vient en 2026. Le segment que... 11h49 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102. Normalement, il nous resterait quelques minutes à faire ensemble, mais là, cette semaine, c'est de 11h à 13h qu'on est là à Boulevard 102.1. Et depuis le début du show, ben, je suis en bonne compagnie, l'ancien chef de l'opposition à la Ville de Québec, Claude Villeneuve, qui avait envie de chroniquer. Fait qu'avant de partir en vacances de Noël, qui passe faire son tour en studio, puis c'est super apprécié. On a parlé politique municipale, politique provinciale. Puis là, ben, je pense que Claude en avait beaucoup à dire aussi sur la politique fédérale. Puis c'est intéressant ce que tu disais tantôt, à l'effet que c'est comme le palier qui est le plus loin, puis on en parle peut-être moins, mais en même temps, ça reste toujours bien le palier qui est au-dessus des autres, puis qui finit par avoir un impact direct sur tout le monde.
Oui, bien, c'est un petit peu le grand chef d'orchestre. Hein, tu sais, c'est le fédéral donne le ton. Tu sais, si on est... Qu'est-ce qui a été un des gros enjeux de l'année? Ça a été les tarifs. Ça a été, en fait, beaucoup... en fait, on aurait envie de dire que c'est rendu Donald Trump qui donne le ton. Mais tu sais, c'est parce que c'est notre vis-à-vis par rapport à Donald Trump. Ben, tu sais, c'est autour de Mark Carney que ça se passe. Mais tu sais, c'est fou. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a vécu dans la dernière année. Tu sais, je pense que c'était autour du 30 novembre, donc il y a un peu plus d'un an, qu'un soir, Trump s'est mis à tweeter sur le 51e État. Là,
le gouverneur Trudeau.
Ben, c'est ça. Puis là, Trudeau puis Dominique Leblanc sont allés manger à Washington. Puis là, tu sais, c'est... Mais qu'est-ce qu'on vivait? On était littéralement, ma blonde puis moi, en train de manger nos restes de temps des fêtes, là, après être allé reconduire les filles à la garderie. Là, le 6 janvier, on était en pyjama, là, assis sur le divan, quand Trudeau sort de Rideau Cottage puis annonce qu'il s'en va. Puis là, ben, tu sais, Mark Carney, moi, je me pose la question, je suis pas capable de répondre. Mark Carney, je savais c'était qui avant. Bon, il était à la Banque du Canada, à Banque d'Angleterre. Mais je ne sais pas si, avoir vu une photo de lui, j'aurais été capable de dire ça, c'est Mark Carney. Peut-être, mais je me souviens plus c'était quoi mon degré d'information sur ce monsieur-là.
Ah, ben pour ben des Canadiens, on ne savait pas c'était qui. Là.
Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Puis là, il arrive, tu sais. En fait, c'est un peu capoté parce que c'est comme si on s'était. Moi, je dis que c'est le premier ministre Lincoln. C'est que c'est comme chercher un consultant. Là. OK, bon, on a une crise avec Trump. Qui pourrait gérer ça? Qui aurait le profil? Tout ça, on a comme ça, on avait envoyé des chasseurs de tête nous trouver un premier ministre.
Parce qu'il faut se ramener dans le contexte. Là, quand Trudeau est parti, c'est pas parce que ça allait bien au Parti libéral.
Non, non.
Ça allait terriblement mal. Les conservateurs s'enlignaient vers un gouvernement majoritaire, même pas proche de...
Écoute, ça, c'est une chronique que j'aurais aimé ça faire la semaine passée. Là. J'entendais des analystes dire « Ah, oh, Pablo Rodriguez, il faut dire que ça avait été tout un pari de sa part de quitter un poste de ministre au fédéral. » Je comme « Hey, come on! » Je veux dire, tout le monde était sûr que les libéraux s'en allaient sa dompe.
Puis même lui, il disait là, moi, je suis venu à Québec parce que je voulais le bien du Québec. J'ai laissé mon siège à Ottawa. » Non, non, c'est parce que tu pensais que tu n'allais jamais être réélu.
Ils s'en allaient se faire laver, eux autres. Puis il serait probablement encore ministre s'il était resté à Ottawa. Puis là, aujourd'hui, à posteriori, on dit ça, mais Trudeau, c'était fini. Poilier avait l'air rentré. C'était indiscutable. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à dire hey, « ça se pourrait-tu que Poilier soit pas élu? » Tu sais, j'étais dubitatif. Puis Carney, ben, ça a été un bulldozer. C'est passé. Il a tassé tout le monde au Parti libéral. Chrystia Freeland, il est rentré très... C'est-tu du 78%? Quelque chose comme ça. Là. C'était comme c'était vraiment fort. Puis là, ben, la campagne... il y a beaucoup de gens qui ont fait remarquer les conservateurs, ils n'ont pas gagné, mais ils ont quand même fait le meilleur score en nombre de votes qu'ils n'avaient pas fait depuis des générations. Oui. Les libéraux aussi. C'est qu'on a une polarisation aux élections fédérales. Là, c'est le NPD et le Bloc qui ont parti à la dernière élection. Mais,
c'est parce que les gens disaient faut donner un mandat fort à la personne qui va aller négocier. Puis là, il y a comme eu un effet de je vote stratégique parce que je veux pas que Poilievre à négocier avec Trump. De l'autre bord, t'as ceux qui disaient « Ben là, je veux pas que ce soit un libéral qui négocie avec Trump. » Fait que c'est ça. Conservateurs et libéraux ont tout ramassé.
Puis moi, je me promenais, je croisais du monde que j'avais côtoyé au Bloc, que j'avais connu au sein du Bloc québécois. Écoute, je vais-tu le dire, des anciens élus du Bloc qui disaient « Là, faut que ce soit Carney, on n'a pas le choix, puis il faut négocier avec Trump. » Puis tout ça, puis ça, c'était comme il y avait plus d'autres questions qui se posaient. Fait que c'est ça, c'était notre politicien, notre premier ministre Lincoln, là, qu'on avait trouvé, il cochait toutes les cases, il savait négocier. Là, maintenant, c'est sûr que ça fait quoi? C'est en mars qu'il est devenu premier ministre?
C'est
en avril qu'il a gagné son élection. Là, après 8-10 mois, là, qu'est-ce qu'il en reste? Ben là,
c'est parce que c'était le gars qui était supposé être capable de gérer Donald Trump pour que finalement on se rende compte que personne n'est capable de gérer Donald Trump. Puis il a fait sa campagne quasiment que là-dessus. Là. C'était juste ça. Là. C'était garder mon CV, je m'en vais négocier avec Trump. Puis là, aujourd'hui, on se dit comme ouais. Puis en même temps, on se dit aussi, bon, Poilievre aurait pas plus été capable.
Ben non, c'est ça, ça aurait pas été... Puis là, tu sais, je sais pas si tu te souviens, il y a eu ce bout-là où Trump s'est mis à attaquer Poilievre sur les réseaux sociaux, puis il disait « Ah, oh, il m'aime pas, je l'aime pas non plus », puis ça. Puis moi, j'ai toujours senti que c'était comme du reverse toddler, là, tu sais, je dis le contraire de ce que je pense pour que, en tout cas, c'était comme... Puis ça a pas aidé Poilievre, moi, je pense, là, quand Trump sait bien dire ça. Donc, tu gagnes pas face à Trump. Il est président du pays le plus puissant au monde. Tu peux pas. Puis il y a une psychologie. Ce qui est dur, c'est que si tu dis tout le temps oui, puis tu sais tout le temps, il va toujours en demander plus. Mais si tu tiens ton bout, ben il va t'en vouloir te le faire payer. T'sais. Fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a comme pas de façon de sortir vraiment gagnant de façon définitive avec Trump. Tu peux faire des deals avec lui circonstanciels. Il faut toujours qu'il y ait le sentiment qu'il y a eu.
Il faut qu'il puisse laisser paraître qu'il a gagné.
C'est ça. Pour Trump, un deal, ça peut pas être quelque chose de gagnant-gagnant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait l'air d'avoir payé le prix. Ouais. Puis, Carney a beaucoup accepté de jouer ce rôle-là. Maintenant, on le voit. On a bien gros parlé des tarifs concernant Trump, c'est ça qui affecte notre économie. De façon structurante à long terme, ce qui va bien plus affecter l'économie canadienne, c'est comment Trump est en train d'éliminer la fiscalité aux entreprises, comment il est en train de couper des normes environnementales, comment, pour rester compétitif au Canada, va falloir qu'on suive en quelque sorte notre fiscalité pour les entreprises, notre règlement, nos normes environnementales, tout ça, va falloir niveler par le bas. On aura, c'est un petit peu Puis ça, à long terme, c'est beaucoup plus structurant. Un prochain président des États-Unis pourrait décider de dire ces niaiseries de tarifs-là, on laisse faire ça, ça fait mal à l'économie américaine, tout ça. Mais tu sais, quand les impôts des entreprises et les normes environnementales vont être abaissées au minimum, ça va être dur pour un autre président de décider de faire l'inverse, tu sais. Moi, je pense qu'à terme, c'est beaucoup plus ça. Puis Carney, ben, tu sais, tu le vois comment... Tu sais, son premier recul, ça a été sa attaque sur les plateformes sociales, les géants du web, tout ça. Tu sais, on a l'impression qu'il va de concession en concession, puis le prochain enjeu, c'est la gestion de l'offre. Donc, tu sais, je suis pas sûr que pour le Québec, même la position défensive de... Puis c'est une des provinces où les libéraux ont fait le plus de gains. Je ne suis pas sûr que la position défensive d'aller vers Carney ait été très payante pour le Québec en tant que tel.
Ce qui pourrait aider le PQ et les chiffres pour un référendum dans la souveraineté du Québec, ultimement?
Bien, historiquement, il n'y a jamais eu rien de mieux pour les péquistes à Québec que des libéraux fédéraux forts à Ottawa. T'sais, c'est comme c'est le couple, là, c'est la dichotomie. Puis, en politique provinciale, les libéraux provinciaux ont besoin d'un PQ fort et inversement. En politique fédérale provinciale, il y a cette dynamique-là aussi. C'est Trudeau à Ottawa, ben, Levesque à Québec. C'est comme la double... C'est la culotte et les bretelles et la ceinture. Là, c'est comme on en veut un tough pour surveiller l'autre en quelque sorte. Donc, c'est peut-être vers ça qu'on va. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans un contexte référendaire, en 80 et en 95, c'était des Québécois qui étaient premier ministre du Canada, Trudeau et Chrétien. Un contexte référendaire où le premier ministre du Canada serait un banquier ontarien qui est né en Alberta, puis tout ça, puis qui ne parle pas super bien français, qui serait le champion fédéraliste? Là, qui serait le champion
Tu penses que ce ne serait pas Mark Carney qui pourrait leader le camp du non?
Ben, ça pourrait pas être lui la principale figure. C'est sûr, tu sais, le président du Cardinon en 80, c'était Claude Ryan, puis Daniel Johnson en 95, les chefs du Parti libéral du Québec, ce serait probablement la même chose. Mais autant Trudeau que Chrétien avaient joué un rôle important. Ouais. Qui serait la figure québécoise, la caution québécoise fédéraliste? Je me demande ce serait qui présentement.
C'est Charest qui y retournerait?
Ben, quasiment, tu sais, il y aurait du monde qui demanderait ça. Mais tu sais, ça aurait pu être un Stephen Guilbeault. Ça aurait pu être...
Mais là, Stephen Guilbeault, je veux qu'on en parle de Stephen Guilbeault. Quel drôle de posture il adopte présentement d'avoir quitté le poste de ministre à cause de l'entente entre Ottawa puis l'Alberta. Puis là, à toutes les... Là, à ce moment-là, il avait quand même été tough envers Mark Carney. Puis lui, il est toujours libéral. Là. Il est encore dans... Là, après ça, une couple de jours après, il voit, tout le monde en parle, il torplante Mark Carney, qui est toujours son chef. Là.
Ouais.
Après ça, une couple de jours après, lettre ouverte dans la presse, le Devoir, je me souviens plus trop, où il replante Mark Carney. Tu dis, voyons donc. Et là, je pense que c'est la semaine passée qu'il ressort en entrevue, là, c'était avec la presse, pour replanter Mark Carney, qui est toujours son chef. Là. On dirait l'exemple que j'ai donné, un gars qui veut pas laisser sa blonde, mais qui veut que sa blonde le laisse. Là. Fait qu'il va être le pire trou de cul jusqu'à temps qu'elle sacle. Mais là, en même temps... sont à un élu de tomber majoritaire, fait qu'il sait qu'il se fera pas sacrer là. Qu'est-ce qu'il veut, Stephen Guilbeault?
Ben, il utilise son rapport de force, manifestement. Je pense pas qu'il se dise qu'il prépare un après Carney ou quoi que ce soit. Je pense que, tu sais, il y a eu... Moi, Stephen Guilbeault, j'avais de l'empathie pour lui parce que, tu sais, pendant le temps qu'il était ministre, là, il y avait comme ses anciens chums, Hugo Latulippe, puis tout ça, qui publiait des lettres ouvertes pour dire qu'il avait trahi la cause, puis tout ça. Puis, tu sais, il était très... Déjà, quand il est arrivé en politique fédérale, il n'avait pas été nommé à l'environnement tout de suite. Il avait été nommé au patrimoine. Puis il y avait plein de gens avec des velléités écologistes, environnementalistes, qui étaient vraiment déçus de ça. Je comme, mais non, mais sa vie serait un enfer, c'est le ministre de l'Environnement. Là, tous les groupes environnementalistes, ils ont tous son numéro de téléphone. Là, finalement, il a fini par aller à l'environnement, puis ça a été très difficile. Ouais, on dirait que c'est comme s'il cherche à pas se refaire une virginité ou, je sais pas, tu sais, genre regagner sa dignité ou quelque chose comme ça, tu sais.
Mais est-ce que c'est pour préparer quelque chose au provincial?
Je le sais pas. Tu sais, en même temps, je suis pas sûr qu'il serait un super bon fit au Parti libéral du Québec non plus, tu sais. C'est plus...
Mais il a déjà été souverainiste.
Oui, c'est ça.
Ça se pourrait-tu qu'il rejoigne le PQ?
Ben moi, quand j'étais au PQ, on considérait que Stephen Guilbeault, c'était un péquiste, là. Tu sais, c'était comme... Il y avait bien des chums... au PQ, il y avait déjà été coloc avec, je pense, François Rebello. En tout cas, je veux pas affirmer n'importe quoi, mais ça, en tout cas, il y avait une histoire de même. Tu sais, on le voyait plus comme dans cette gang-là. Mais tu sais, il y a eu un bout où, à un moment donné, le mouvement indépendantiste était rendu tellement faible que
On en parlait.
Tu avais Régent Hébert qui était ministre de la Santé pour le Parti québécois. Tu allais se présenter pour Trudeau là, à Sherbrooke. Là, je sais pas, on se souvient pas beaucoup de ça. Les catégories se seront comme un petit peu amoindries à un moment donné. Puis là, ben, peut-être que le fait qu'il soit en train de revenir, je sais pas, on va peut-être le voir arriver, Stephen Guilbeault. Mais tu sais, dans tous les cas, c'est sûr que sa posture, il peut se permettre de faire ce qu'il fait parce que les libéraux sont à un siège de majorité. Là, sinon, là, ça ferait longtemps qu'il serait fait mettre dehors du caucus. Là.
Claude Villeneuve, en terminant, y a-tu un petit dernier dossier que tu avais sur ta liste que tu veux aborder avant qu'on se laisse jusqu'en 2026?
Écoute, ça va être une grosse année. Il y a des, moi, je regarde partout ce qui se passe. Tu sais, en France, Macron, c'est pas évident de former un gouvernement. On a beaucoup de certitudes, tu sais, qu'on avait sur notre monde puis sur le système politique dans lequel on évolue.
Ils sont shaky.
Puis ça peut pas faire autrement. T'sais, dans un contexte où au Québec, il y a des gens, le PQ veut faire un référendum, ça, ça devient une question géopolitique. T'sais. Fait que c'est rendu. Fait que c'est des affaires là, qui sont bien loin, là, qui vont avoir des conséquences là, sur notre vie. La grosse géopolitique, là, quand on parle de négociation sur la gestion de l'offre, c'est la vie des cultivateurs, des agriculteurs au Québec. T'sais. C'est les. Moi qui sors du municipal où on est dans l'hyper local, dans le coin de rue, dans le déneigement. Ouais. Hey, d'ailleurs, ça déneige ça à Québec ce mois-ci? Je pense qu'on est rendu à 4 opérations de déneigement. Là, on dirait que Marchand a décidé qu'il ne se ferait pas écœurer sur le déneigement dans ce bar-ci.
Là, il y en a encore qui chopent les pistes cyclables et tout.
Oh, oui, mais c'est ça. Tu sais, on est tout. On est constamment tiraillé entre ce qui est l'hyper local et ce qui est le très global parce qu'on se rend compte que les deux sont de plus en plus influencés. C'est un peu ça mon mot de la fin. Je pense que 2026, ça va être une année où on va être un petit peu entre deux chaises encore une fois. Là.
Claude Villeneuve, ex-chef de l'opposition à la Ville de Québec. Toujours chef sur papier de Québec d'abord. On est en train de fermer les livres un peu là-dessus, puis on verra pour la suite. On se reparle peut-être en 2026, Claude Villeneuve. Toujours un plaisir.
Allez, salut, Maxime.
Hey, au retour, merci toi aussi, joyeuse fête. Bon temps dans ton coin. Au retour, Luc Paquette, directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. On fait le tour de ce qui a marqué l'année au niveau de l'éducation en 2025. Il y a eu les fameuses coupures budgétaires qu'à un moment donné, là, on est revenu en disant « OK, on va vous redonner l'argent, mais à condition que ça aille au service aux élèves. » Là, les écoles étaient comme « Ouais, ben c'est parce qu'on s'amusait pas avec cet argent-là. Là, ça allait au service des élèves, mais OK. » Et aussi, ben, l'interdiction des téléphones cellulaires, c'est arrivé ça dans la dernière année. Puis là, il y a le vouvoiement obligatoire qui s'en vient aussi pour le début 2026. On jase de tout ça avec Luc Paquette que vous aimez bien. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 101, il est midi 3.
Le